Bienvenue sur le podcast Heureux au présent. Je m'appelle Pascal Kionkion et je vais vous accompagner pour créer votre bonheur et vivre votre vie en mieux. Nous agissons toujours par intérêt. Ça paraît étrange d'entendre le titre aussi évident que cela de ce rendez-vous, pourtant, vous vous rendrez compte que même quand ce n'est pas dans notre intérêt, nous agissons par intérêt. On se retrouve tout de suite pour mieux comprendre. Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous qui s'annonce bien parce que je suis vraiment ravi d'aborder ce sujet. Je l'avais déjà annoncé il y a quelques semaines en disant que je m'arrêterai là-dessus sur le fait qu'on agissait par bénéfice, par intérêt. Et le grand jour est arrivé. Alors, bienvenue, j'espère que vous êtes en forme, que vous êtes prêts pour démarrer ce rendez-vous. Merci pour votre démarche, je l'ai fait déjà il y a quelques semaines, je voudrais encore vous remercier pour votre démarche qui a pour projet de vous faire grandir vous-même. Alors peut-être qu'il y a un peu de curiosité de dire on va voir ce que dit Pascal sur son podcast Heureux au présent, mais c'est le cas, tant mieux. Mais en tout cas, je souhaite que vous en tiriez aussi du bénéfice pour vous, pour évoluer, pour avancer, pour créer votre bonheur, parce que c'est le but de ces rendez-vous qui ont été instaurés maintenant depuis quelques années. Donc, nous agissons toujours par intérêt, rentrons dans le sujet tout droit. Ça peut paraître assez évident, comme je l'ai dit dans l'introduction, que tout ce que nous le faisons par intérêt, par bénéfice. Qu'il s'agisse de faire la vaisselle, de faire les courses, de faire le ménage, d'aller travailler, même pour des choses qu'on n'aime pas, même si vous n'aimez pas votre boulot, vous travaillez par intérêt. Alors, ce qui est particulier avec le travail, c'est qu'on va y mettre évidemment une connotation pécuniaire, c'est-à-dire que j'ai besoin de mettre quelque chose dans mon assiette. Mais même dans votre manière d'être en relation avec votre voisinage, que la relation soit bonne ou mauvaise, que vous soyez en bon terme avec quelqu'un ou en mauvais terme avec quelqu'un et que vous êtes en relation avec lui, nous allons en permanence chercher notre propre intérêt. Ce qui est très particulier, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que même quand ça nous fait mal ou que ça nous fait du mal, on agit motivé par un intérêt. L'humain est assez étrange parce qu'il est capable, et je ne sais pas si c'est la seule espèce sur cette terre qui est capable de faire des choix qui vont à l'inverse de son développement personnel, de son bénéfice, de sa croissance, de son bonheur, tout en y trouvant un intérêt. Alors on va s'arrêter un petit peu tout à l'heure pour savoir ce qu'il en est, mais je voudrais quand même déjà mettre cela sur la table, parce que vous avez aussi, vous comme moi-même, fait des choix, ou vous faites encore des choix, qui vous desservent. Et je voudrais que vous intégriez que si vous faites ces choix, c'est parce que vous y trouvez un intérêt. Je pense à quelqu'un qui fume, quelqu'un qui boit, quelqu'un qui se drogue, quelqu'un qui cherche à ne pas entretenir une relation satisfaisante avec une personne de son entourage, quelqu'un qui essaie de pourrir la vie de quelqu'un d'autre. Même si il ou elle en tire du mal, du mal-être, du mauvais, des choses désagréables, il le fait avec intérêt. Nous sommes tous comme ça. Bienvenue dans la peau d'un humain. L'humain est capable, en fait, pour mieux comprendre, de prendre des décisions irrationnelles. Alors je voudrais juste, avant d'aller plus loin, définir ce qu'est un intérêt. C'est un avantage qui est recherché pour soi-même ou pour un autre. Une tendance à s'attacher à quelque chose que l'on trouve avantageux. Donc, à partir du moment où on y voit un avantage pour soi-même ou pour les autres, il s'agit là d'un intérêt. Donc, quand on parle d'intérêt, d'avantage ou de bénéfice, on est dans la même famille de ce qui nous motive dans nos choix, de ce qui motive nos décisions, notre direction. Parce quand je dis nos choix, j'ai l'impression que ça peut être un petit peu à court terme, là, sur le présent, mais je voudrais vraiment l'étendre parce que ça peut être sur du moyen, mais aussi sur du long terme. Je voudrais juste définir le mot rationnel ou irrationnel, parce que je voudrais vraiment être bien, bien, bien compris par tout le monde, parce que c'est un terme qui est souvent employé. J'utilise dans les rendez-vous heureux au présent l'importance de prendre des décisions rationnelles, d'avoir une approche rationnelle. Eh bien, rationnel, c'est ce qui est du domaine de la raison, en fait. C'est un relation avec la raison. C'est fondé sur la raison. Donc, à partir du moment où on fait une analyse, on réfléchit et qu'on voit les choses sur le plan rationnel, à contrario de émotionnel, eh bien, on est dans une approche rationnelle. La plupart du temps, nous prenons des décisions irrationnelles. Ça veut dire qu'elles ne suivent pas une logique cohérente. Et il m'arrive de poser la question à certaines personnes en leur disant « Mais qu'est-ce que tu penses de ça ?» Et la personne me donne une explication. Et je lui pose la question, c'est « Mais alors, pourquoi as-tu pris telle et telle décision ?» Et la décision qui a été prise n'est pas forcément raccord avec l'analyse rationnelle de cette personne-là. Parfois, on peut en être conscient, parfois, ce n'est pas le cas du tout. Je prends un exemple assez simple de quelqu'un qui dit « Moi, j'ai comme valeur de respecter la planète. Pour moi, c'est très important de prendre soin de soi et d'investir dans une approche écologique environnementale. » Et cette personne-là fume et conduit un super gros 4x4. Alors, on va me dire « Oui, mais il y a forcément des raisons aux raisons qui font que… » Oui, il y en a. Vous entendez que sur un plan rapide, cliché, là, il y a une approche, une décision irrationnelle qui apporte des bénéfices à cette personne qui fume et qui conduit un très gros véhicule qui consomme énormément, qui est en rupture avec sa capacité à analyser la situation et à peut-être tenir un discours auquel elle croit. Parce qu'on n'est pas en train de dire qu'on est là face à un menteur, à un politicien ou à un tocard qui raconte des trucs pour faire beau. On peut être capable de décisions irrationnelles alors que l'on croit vraiment à autre chose. Donc c'est pas forcément que l'on se renie soi-même. On est dans une, j'aime pas employer trop de termes techniques, mais on parle d'une rupture épistémologique. Imagine épistémologique, ça vient de hémisphère. C'est comme si il n'y avait pas de communication entre deux hémisphères. Ils sont dans le même bocal en parlant du cerveau, mais il y en a un qui va dans une direction et l'autre hémisphère va dans une autre direction, comme s'il y avait une sorte d'incohérence. Cette incohérence, cette rupture épistémologique est présente dans quasiment tout le monde. Donc on est forcément à plusieurs moments ou régulièrement dans cette forme d'incohérence qui se manifeste d'une manière ou d'une autre, et même parfois dans nos choix, et donc dans nos décisions irrationnelles. Nous fonctionnons, je disais, avec une balance en permanence, bénéfice, risque. C'est comme ça que la médecine fonctionne avec les médicaments, en disant voilà, si le médicament procure plus de bénéfices que de risques, eh bien, il est validé, on peut le mettre sur le marché. Eh bien, nous fonctionnons de la même manière, en fait. C'est pas pour rien que la médecine a inventé ça. Il n'y a pas que la médecine qui utilise ça. C'est pareil pour l'automobile et pour d'autres inventions. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le bénéfice est supérieur au risque, eh bien, on y va. Effectivement, le risque peut intenter à la vie, à la survie, à l'équilibre, à la santé, au bien-être. Mais à partir du moment où il est inférieur, parfois même à peine inférieur, même s'il n'y a pas d'échelle pour l'évaluer, au bénéfice ou à l'intérêt, eh bien, ça suffit pour adopter la chose. Notre cerveau a une capacité en plus qui est assez extraordinaire. Ça, c'est une parenthèse que j'ouvre sur cette partie d'intérêt. C'est qu'il est capable, toujours avec la notion d'intérêt, de trouver un moyen de résoudre un problème insoluble pour permettre de continuer une action. Par exemple, je sais que manger beaucoup de biscuits ou de chocolat ou de bonbons est mauvais pour la santé. Et si j'ai beaucoup, beaucoup travaillé aujourd'hui, par exemple, vraiment, j'ai bossé pendant des heures, j'ai été enfermé dans mon bureau, je n'ai pas vu dehors. Je peux trouver un moyen de me dire, ben, vu le temps que j'ai passé à travailler et qu'en plus j'ai bien avancé sur mon dossier, eh bien, je peux prendre un moment à marcher dehors et en mangeant quelques bonbons ou quelques biscuits. Vous voyez que c'est un moyen d'apporter un intérêt à une chose que je sais néfaste pour moi-même. Ou, c'était néfaste, c'est un peu fort, mais pas bonne en tout cas, qui ne va pas dans le bon sens de manger des biscuits ou des bonbons. Donc, c'est une manière de résoudre une équation, de résoudre un problème intérieur, on va dire de réconcilier son côté rationnel et son côté irrationnel, ou plutôt émotionnel. Alors, je vais utiliser émotionnel, mais ce n'est pas forcément émotionnel quand c'est irrationnel. Donc, si je fais ça, c'est parce que, et je vais trouver un moyen de réconcilier, c'est parce que je le mérite, ou c'est parce que, quand même, vu ce que j'ai vécu, ou bien c'est parce que, compte tenu de ceci ou de cela. Voilà. Le problème, c'est quand quelqu'un, par exemple, se retrouve en difficulté financière et qu'il a un gros, gros problème parce qu'il a été constaté que sur son compte bancaire, il a un vrai trou, ben parfois, pour essayer de se consoler, il va aller acheter quelque chose. Donc, il va aggraver la situation. Ou bien, il se dit, voilà, j'ai bu, j'avais dit que je ne boirais pas, ça fait un moment que je n'avais pas bu, ben, allez, quitte à boire, allons-y. Voilà. On se donne une autorisation supplémentaire pour essayer de compenser. Voilà, je ne vais pas rentrer dans trop de détails. En tout cas, j'ai dit que je ne voulais pas être technique. Donc voilà, c'est une manière de se réconcilier. On va l'utiliser comme ça. De se réconcilier, de tendre la main droite vers la main gauche et de faire en sorte qu'on se retrouve en confort avec soi-même par une sorte de raisonnement qui n'est pas rationnel, justement, qui est donc irrationnel. Et le plus fort de ce raisonnement irrationnel se trouve dans l'imaginaire. La science n'est pas en mesure d'affirmer aujourd'hui que d'autres espèces que l'espèce humaine est capable de vivre de l'imaginaire, donc du rêve, du fantasme, ou simplement de la projection vers autre chose. Est-ce qu'un animal est en mesure de se dire « Tiens, je mangerais bien, je pense à un renard, je mangerais bien un poulet aujourd'hui, ou un faisan, ça me ferait plaisir. » On ne sait pas ça. Toutes les études qu'on a faites ne permettent pas de faire ça. Même les études sur les singes, sur les porcs, sur les souris qui sont les plus étudiées, on n'a pas les moyens de savoir si l'imaginaire est accessible aux animaux. Par contre, l'humain, c'est clair. Et on n'est pas en mesure, encore aujourd'hui, de définir quelle est la part d'imaginaire qui est présente dans l'esprit humain. À quel moment on est dans l'imaginaire, à quel moment on est dans le vrai? Quand quelqu'un me dit que je suis un vieux con et que je me sens blessé, je suis dans le vrai ou dans l'imaginaire? Alors, ceux qui connaissent ce heureux présent savent que s'il me dit que je suis un con, je suis peut-être dans le vrai. Il me dit que je suis un con. C'est objectif, c'est rationnel. Je peux devant un juge dire « il m'a dit que je suis un con ». Que je me sente blessé, c'est à cheval sur les deux. Je me sens blessé, c'est du réel, c'est rationnel. Par contre, le fond de ma blessure est imaginaire. Parce que c'est moi qui ai choisi de me sentir blessé, ce n'est pas lui qui m'a blessé en disant que je suis un con. J'y reviendrai dans un rendez-vous que je suis en train de préparer, dans lequel je vous dis que les événements sont neutres. Ça fait des semaines que j'en parle et je vous assure que ce rendez-vous est sur mon bureau, dans mon dossier, en disant que je vais l'aborder. J'ai envie de continuer à le ruminer pour l'affiner, le préparer avant de vous le présenter. Donc, je reviens sur la notion d'imaginaire. C'est dans l'imaginaire que se façonne notre aptitude à faire des choix irrationnels. Vous voyez un beau mec, une jolie nana, et vous commencez à fantasmer. Vous y voyez un bénéfice ou un intérêt qui n'est que dans le domaine de l'imaginaire, parce que vous n'avez aucun moyen de savoir ce que vous vivrez si un jour la relation naît entre vous et l'une de ces personnes. Ce n'est donc que de l'imaginaire. Et on va même jusqu'à dire qu'en fait, la relation, pour reprendre la relation amoureuse que je viens d'utiliser comme exemple, est essentiellement imaginée, fantasmée dans un couple. Parce qu'en réalité, on est généralement en relation avec une personne qu'on a projetée de soi-même en se disant « Je pense qu'il ou elle est comme ça, par conséquent, je vais investir dans une relation dans laquelle je vais rendre réel ce il ou elle que je vois comme ça. » Et c'est valable dans d'autres épisodes relationnels. Je pense à une personne que j'accompagne, elle va se reconnaître sans doute, qui dit que sa sœur la déteste. C'est assez délicat d'aller dire que ce n'est pas vrai. La question n'est pas de savoir si c'est vrai ou pas. Mais en fait, peut-être première question, sa sœur lui a-t-elle dit « Je te déteste ?» Non. Ah. Alors, sur quelle base penses-tu que ta sœur te déteste ? Eh bien, parce qu'elle agit comme ça, et qu'elle agit comme ça, et qu'elle agit comme ça. On est exactement dans la fenêtre de l'imaginaire. Puisque j'en ai conclu, moi, j'ai créé dans mon passé l'idée que quand quelqu'un agit comme ça avec moi, et qu'en plus il dit ça, et qu'il ne fait pas ça, il me déteste. Le jour où quelqu'un d'autre fera la même chose, je déciderai qu'il me déteste. Ça ne veut pas dire que la personne qui fait la même chose me déteste. C'est mon imaginaire qui a créé l'idée qu'il me déteste. Donc c'est dans mes pensées. Ne partez pas de là en vous disant « mais en fait, je suis un mytho, je me fais des films et en fait, je me fais… » Non, nous fonctionnons tous comme ça. Ce qui est intéressant, c'est de faire la part des choses en étant en mesure d'aller voir ce qui est rationnel et irrationnel. De se souvenir que nous agissons toujours dans notre intérêt, mais pas forcément avec une approche rationnelle. Or, l'imaginaire n'est pas rationnel. Je rappelle que rationnel est en relation avec raisonnable. L'imaginaire n'est pas rationnel. Il n'est pas raisonnable par définition, puisqu'il est l'imaginaire. Le propre de l'imaginaire est de pouvoir vivre en dehors de tous les cadres, pouvoir se projeter dans le passé, dans le futur, sans paramètres temporels. On est en mesure de se transformer en tout ce que l'on veut, notamment en prophète ou en devin. Il arrive que je vais peut-être voir mon supérieur, mon patron, pour lui demander une augmentation. Eh bien, je vais pouvoir adopter une approche rationnelle ou irrationnelle. Approche rationnelle, j'ai besoin de davantage d'argent, je suis prêt à travailler davantage, je demande donc à mon employeur de bien vouloir m'accorder une augmentation compte tenu du fait que j'ai travaillé davantage ou que je travaillerai davantage ou que je prendrai un dossier plus difficile, etc. Et je sais que, parce que ça c'est vraiment rationnel, mon patron peut me dire oui, non ou pas maintenant. J'y réfléchirai, on verra. Voilà, tout le pas maintenant, c'est ouvert. Hein. On réfléchira, je verrai, ou ça se discute, ou voilà, tout ce qu'on veut. Mais c'est soit oui, soit non, soit une option qui est la même, en fait. C'est que c'est pas, ça ne se produira pas sur le moment, mais voilà. Donc, à partir du moment où je sais que j'ai une approche rationnelle, eh bien, en fait, je vais approcher mon patron sans avoir à me faire des films sur la peur, mais s'il le prend mal ou s'il a l'impression que j'exagère. Tout cet aspect-là correspond à de l'imaginaire. Parce que la deuxième manière d'aller voir mon patron pour demander une augmentation, c'est d'avoir de l'imaginaire en me disant « mais est-ce que je le mérite ?» Et s'il le prend mal ? Et s'il a l'impression que j'exagère ? Et si la somme que je demande n'est pas suffisante ? Et si la somme que je demande est vraiment supérieure à ce à quoi il est prêt de me donner ? Et puis, cette année, on passe par des moments un petit peu difficiles au niveau économique. Est-ce que c'est peut-être le bon moment ? Je vais choisir le bon moment. Et toute cette notion de bon moment, etc., fait partie de l'imaginaire. C'est une approche non raisonnable qui peut avoir pour intérêt de faire que je me dise bah, « j'irai pas voir mon patron ». Parce qu'en fait, comme j'ai peur, je vais aller chercher l'intérêt pour ne pas être confronté à la situation qui est irrationnellement, mais enfin, je veux dire, sur le plan imaginaire, construite de manière à m'éviter de le faire. Madame, monsieur, si vous m'écoutez, eh bien, vous savez quel est le problème de la procrastination, c'est l'imaginaire. Si je me mets à ce boulot-là, à faire cette tâche-là, eh bien, je vais souffrir, mais j'en sais rien en fait. En fait, on ne peut savoir ce que l'on ressent, ce que l'on vit vraiment, que quand on est en train de le faire. Tout le reste n'est qu'imaginaire. Tout en continuant à focaliser notre attention sur le fait que nous agissons toujours par intérêt, je vais prendre quelques exemples. Je vais commencer par un exemple qui est difficile, parce que voilà, c'est celui qui me vient. Une femme est battue. Sachez que je déplore gravement situation de violence conjugale, que ce soit l'homme qui bat la femme ou la femme qui bat l'homme, on en parle moins parce que les hommes ont, comme ils disent, une fierté et qu'ils n'osent pas dire que leur femme les bat, mais ça arrive. Heureusement, peu d'hommes décèdent suite au coup violent de leur femme, mais juste pour information, on est en 2018 à 149 morts en France suite à des violences conjugales, ce qui comprend 121 femmes et 28 hommes. Parmi les 28 hommes tués, 15 avaient commis des violences antérieures sur leur partenaire. C'est quand même intéressant d'entendre cette parenthèse. Donc c'est parfois parce que madame en avait eu ras-le-bol. Mais bon, il y a aussi des décès qui sont malheureusement dus à des violences. Donc quelle que soit la violence, je condamne. Et souvent, une des questions qui est posée, c'est de savoir pourquoi madame ne part pas. Elle est battue, battue plusieurs fois et elle reste là. La réponse, ou plutôt une des réponses, c'est qu'elle agit par intérêt. Elle agit par intérêt pour ses enfants, parfois, quand elle en a. Elle agit par intérêt pour elle-même, en se disant, mais si je pars, qu'est-ce qui va se passer ? Et là, on est dans le cadre d'une décision irrationnelle. Parce qu'elle se dit, mais il va sans doute me retrouver. Et s'il me retrouve, il va me tuer. Ou peut-être si je pars et qu'il retrouve un de mes enfants qui est dans telle ou telle école, il va peut-être le prendre et je serai privé de la relation avec mes enfants, etc. Si je prends un autre exemple sur le licenciement, vous avez été licencié. Sur le plan rationnel, votre employeur vous a dit, je ne veux plus que vous travaillez dans l'entreprise. Vous, quel est l'intérêt que vous allez chercher à cela ? Parce que vous allez agir par intérêt. Quand vous allez partir de l'entreprise en apprenant que vous êtes licencié, vous rentrez à la maison, vous devez l'annoncer à la famille, vous allez agir par intérêt dans votre manière de le dire, dans votre manière de le vivre. C'est-à-dire que peut-être vous allez essayer d'avoir une tête de mort en vous disant « Oh là là, c'est terrible, c'est une catastrophe » parce que vous avez intérêt à le faire. Parce que si vous rentrez et que vous avez l'impression que « Voilà, j'ai été licencié aujourd'hui », c'est peut-être pas superbement accepté par votre conjoint. C'est comme ça que vous projetez dans votre imaginaire. Et toujours dans votre imaginaire, si vous le vivez de manière dramatique, en le pensant vraiment comme cela, en le vivant profondément comme étant un drame, est-ce vraiment un drame ? En quoi est-ce un drame ? Alors vous pouvez dire, oui, mais j'avais plus de salaire, comment ça va se passer pour le loyer, pour les enfants, pour la famille, etc. Oui, seulement, c'est peut-être pas forcément un drame. Parce qu'il y a quand même un taux raisonnable de personnes qui sont licenciées par jour en France, pour lesquelles ce n'est pas un drame. Donc, sur le plan rationnel, objectif, ce n'est pas un drame. Donc, si vous agissez en vous morfondant sur cette situation, c'est parce que vous y trouvez un intérêt, et cet intérêt peut être irrationnel parce que imaginaire. C'est pareil pour une rupture conjugale. C'est pareil pour une relation extra-conjugale. Mon conjoint, je vais le dire d'une manière irrationnelle. Mon conjoint m'a trompé. Ça, c'est irrationnel. Mon conjoint a couché avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est une information rationnelle, objective. Il a couché avec quelqu'un d'autre. Il m'a trompé. C'est moi qui interprète comme tel. Donc, on est dans de l'irrationnel, dans de l'émotionnel, dans de l'imaginaire. Parce que ça veut dire qu'il y a eu un contrat qui peut être... Voilà, je ne sais pas lequel. Alors, s'il était marié, qu'il y a un contrat de mariage qui dit qu'effectivement, il n'y a pas de tromperie, d'accord. Mais comme on a la plupart de nos couples qui sont en union libre, est-ce que le contrat était très, très clair, presque écrit noir sur blanc que... Et puis, est-ce que c'est vous qui l'a trompé ou est-ce que c'est lui-même qui l'a trompé d'abord ? Et on peut continuer à travailler là-dessus. Et c'est pareil dans le cas d'un décès. Quand j'ai quelqu'un de proche qui est décédé, quel est mon intérêt ? Est-ce que je fais la tête par intérêt pour vraiment être en accord avec ma croyance personnelle ? Est-ce que je pleure parce que c'est vraiment ce que je ressens ? Et si je ressens comme ça, que j'ai besoin de pleurer comme ça, est-ce que c'est parce que... Quel est l'intérêt que je suis en train de servir ? Si je n'ai pas envie de me morfondre en tristesse et de porter le deuil pendant des mois et des mois, quel est mon intérêt ? Nous agissons toujours par intérêt, avec des intérêts rationnels, objectifs, et d'intérêts irrationnels. C'est pour ça que c'est intéressant de se poser la question, parce que parfois, il peut y avoir une sorte de paradoxe. Je voudrais vous proposer de laisser de côté l'idée d'être raisonnable et donc d'être systématiquement en mesure de prendre une décision rationnelle et objective. Alors ça paraît en contradiction avec beaucoup de choses que j'ai proposées depuis le début sur Heureux au présent. Rassurez-vous ou inquiétez-vous en fonction de votre ressenti, ça n'est pas en opposition. L'idée c'est qu'on ne soit pas forcément en train de toujours chercher à s'attacher à du raisonnable avec une logique implacable. Nous sommes des humains, nous ne sommes pas des machines. A contrario, adoptez plutôt l'idée de vivre en conscience. Vivre en conscience qui vous permet de vivre une situation en étant pleinement conscient de ce que vous vivez, des raisons pour lesquelles vous vivez, des raisons pour lesquelles vous n'êtes pas consciente, de ce qui vous attire, quelque part, de l'intérêt, et des raisons pour lesquelles vous êtes attiré par ça. Si je reprends l'exemple du licenciement et que vous voyez que vous rentrez à la maison et que vous allez annoncer à votre famille, à vos parents, à votre conjoint que vous avez été licencié, quelle que soit la raison, quelle que soit la manière plutôt de le vivre, observez-vous pour vous brancher à vous de manière à percevoir ce que vous vivez. À supposer que vous vous sentiez abattu par l'idée du licenciement et que vous l'annonciez en étant vraiment abattu, voilà, j'ai été licencié, vraiment, je suis nul, j'ai encore pas été à la hauteur cette fois-ci, etc. Observez-vous, regardez-vous vivre en conscience. Quel est l'intérêt que vous cherchez là, dans cette manière d'exprimer votre réalité objective qui est « mon patron a choisi de se séparer de moi ». Est-ce que vous avez besoin qu'on s'apitoie sur votre sort ? Est-ce que vous avez besoin de rentrer dans un moule social, dans une grille de lecture qui fait que ce sera acceptable si vous le vivez comme ça ? Est-ce que vous le vivez comme ça parce que vous avez une identité propre qui était attachée à votre emploi ? Ça veut dire que vous êtes plombier, eh bien c'était presque un attribut. Et j'ai dit maintes fois que c'est un problème parce que personne n'est plombier. On est plombier comme qualificatif, c'est un métier. Être humain, être papa, être enfant, être une femme, c'est un attribut. Par contre, être plombier, être électricien, être peintre ou facteur n'est pas un attribut, c'est une fonction. Et si vous vous associez votre métier à un attribut, et bien évidemment, ça va vous tirer vers le bas le jour où on vous coupe ce que vous appeliez un attribut et pas la fonction. Vous pouvez avoir d'autres fonctions. Il y a une infirmière qui me disait récemment, par rapport à l'obligation vaccinale, « Oh là là, moi, si je suis vacciné, je ne veux pas être vacciné. Mais qu'est-ce que je vais faire d'autre ? Je ne sais être qu'infirmière. » Je ne sais être qu'infirmière. Faux. Non. Dommage. Triste. Travaillons là-dessus pour que tu comprennes que tu n'es pas que infirmière. Je dis « tu » parce que je la tutoie, cette dame. Tu n'es pas infirmière. C'est une fonction. Tu es toi. Et bien sûr, tu peux apprendre d'autres choses. Surtout qu'elle n'avait pas 80 ans. Donc, tu peux apprendre d'autres choses. Hein. Donc, ça, c'est important. Cette notion de vivre en conscience est vraiment attachée à la question de quel intérêt ? Pourquoi je vis ça ? Qu'est-ce que je veux dire quand je vis ça ? Qu'est-ce que je veux dire dans ma manière de vivre ce que je suis en train de vivre ? Et un exercice qui peut être complémentaire à celui-ci, c'est d'écrire les raisons pour lesquelles vous vivez ce que vous vivez sur votre cahier de vie, jusqu'à épuisement d'idées des raisons. Voilà. Je pense que je vis le décès de mon frère de cette manière-là, parce que et j'y vois tel intérêt, parce que c'est quand même justement l'objectif de l'exercice, j'y vois tel intérêt, j'ai tel avantage et tel bénéfice à vivre le décès de mon frère de cette manière-là. Oui, parce que même dans cette situation-là, il y a des intérêts. Hein. Je me rappelle que dans d'autres coins du globe, quand il y a un décès, on fait la fête, on est content, on se dit enfin, il ou elle est délivré. Donc, on fait un feu de joie, une grande soirée, on fait ça pendant une semaine ou des jours encore. Quel intérêt ai-je à vivre les choses comme ça ? Quel intérêt ai-je à dire, il ou elle m'a trompé ? Quel intérêt ai-je à... et on peut faire la liste de ce qui correspond à votre situation. À dire que je suis un mauvais père, à donner l'impression que je n'arrive pas à m'épanouir au travail, à être malheureux, à donner l'impression aussi ou à faire que ma thérapie ne fonctionne pas, etc. La liste peut être longue. Prenez un seul sujet et écrivez jusqu'à épuisement d'idées les raisons pour lesquelles vous avez fait tel choix. Quels sont les intérêts ? Quels sont les bénéfices à faire ce choix ? Et en allant dans les sous-couches, vous avez mis une raison, un intérêt. Continuez à creuser. Ah, mais celui-ci amène à un autre intérêt. Et comme j'ai mis cet intérêt-là, ça veut dire qu'effectivement, dessous, j'ai aussi tel intérêt et tel intérêt. Et vous allez comme ça descendre en vous-même pour aller prendre connaissance de ce qui vous motive, des bénéfices que vous tirez à adopter telle ou telle posture, quelle que soit la posture. Quelle que soit la posture. À être le marrant, drôle dans les after-work au boulot ou à être le morose, triste qui ne rigole pas du tout. C'est à vous de voir les situations de vie qui vous ressemblent. Mais quoi qu'il arrive, il est temps de vous avouer la vérité sur les intérêts, sur ce qui vous pousse à agir. Je rappelle que nous agissons toujours par intérêt. Quand vous agissez par intérêt, dites-vous la vérité. Identifiez l'intérêt qui est derrière. Et puis acceptez-le avec bienveillance, sans vous juger. « Ouais, mais en fait, mon intérêt, c'était ça, vraiment, c'est minable. » Non. Reconnaissez l'intérêt, regardez-le. prenez-en connaissance. Si vous en voyez plusieurs, prenez-en connaissance. J'ai dit que vous pouvez faire la sous-couche, puis la couche d'en dessous, et encore la couche d'en dessous. Prenez connaissance de tous les intérêts, les bénéfices que vous voyez à votre attitude, à votre choix de posture, quelle qu'elle soit. Et une fois que vous avez mis l'ensemble de vos intérêts, de vos bénéfices, sans les juger avec bienveillance sur votre cahier de vie, corrélez. Faites des liens. Vous voyez qu'il y en a plusieurs qui sont communs. Et puis vous en voyez qui sont complètement opposés. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression parfois quand c'est opposé que ce n'est pas du tout dans le même camp. Mais parfois, ça peut être dans le même camp. L'opposé peut être opposé de surface. Donc, prenez le temps de regarder cela avec attention pour apprendre à vous connaître, à vous rapprocher de vous en regardant vos actions, sachant que nous agissons toujours par intérêt. Il ne me reste plus que vous souhaiter une bonne semaine. Bye bye. Vous avez eu intérêt à écouter ce rendez-vous jusqu'au bout. Eh bien, je vous dis bravo. Profitez de cet exercice que je vous ai proposé, les deux exercices que je vous ai proposés, tant celui sur le cahier de vie que celui que vous pouvez vivre en étant en conscience. Si vous avez des questions, vous savez que vous pouvez me les poser. Profitez aussi des 30 minutes offertes que vous pouvez saisir en allant sur le blog Heureux au présent, sur l'onglet Go, je passe à l'action. Sachant qu'il n'y a aucun engagement, je vous attends. À très bientôt.